On le retrouve en direct de l'île du Prince-Édouard où il est en vacances. Il revient, je crois, soit aujourd'hui, soit demain, dans le cas de David Gilbert du podcast Premier les buts. Très content de lui jaser aujourd'hui. Salut David, comment ça va?
Hey Fix, super content de te jaser. On met les vacances sur pause, ouais. On vient peser sur play pour parler d'NFL. Écoute, le plus beau sport au monde qui commence à se replacer là.
Dans le cas du podcast Premier les buts, est-ce que vous recommencez bientôt?
C'est drôle que tu en parles parce qu'on a enregistré notre premier épisode tantôt. D'ailleurs, c'est pour ça que je peux te dire qu'avec le Zoom, ça fonctionne bien. On l'a testé.
Excellent.
Notre premier épisode donc de la saison 5 qui sera sur toutes les plateformes dès demain matin. Fait qu'on relance la machine. Le football, on est dedans. Là. La pré-saison commence. Ouais. La saison régulière est à nos portes. Let's go!
Très content de jaser. On le fera à quelques reprises au courant des prochaines semaines. On va se reparler également vendredi pour continuer à mettre la table dans les camps de la NFL qui nous apporte toujours toutes sortes d'histoires différentes. Et malgré sa bonne performance lors du premier match préparatoire dans le cas de Shedeur Sanders, malheureusement, on a appris aujourd'hui qu'il s'était blessé. On parle d'une blessure mineure dans son cas, mais avait quand même très bien fait, David, lors du premier match préparatoire des Browns de Cleveland.
Oui, effectivement. Écoute, à part une première série peut-être un peu plus difficile, ouais. C'est peut-être normal parce que c'est ta première série dans un uniforme de la NFL. Super bien fait, au-dessus de 140 verges, 2 touchés, pas d'interception. D'ailleurs, il a décidé de partir. Stephen Skill, l'entraîneur-chef, a donné le poste de partant à Shedeur Sanders parce qu'on a eu 2 blessures de dernière minute à Dylan Gabriel ainsi qu'à Kenny Pickett. Fait qu'on lui a dit ça comme un peu dernière minute. Il n'avait même pas eu une séance d'entraînement avec la première équipe. Il a super bien fait. Bizarrement, les 2 blessures au corps arrière substitut se sont miraculeusement réglées suite à sa performance. Je pense qu'il sent la pression. On vient d'apprendre qu'il ne jouera pas le match en fin de semaine, fort probablement. Mais je pense que Shedeur Sanders, c'était nécessaire parce que on va être honnête et fixe. Mettons qu'il y avait eu une mauvaise performance, là, on l'aurait détruit dans les médias. Et là, il y a une bonne performance, mais là, on dit il jouait juste contre l'équipe B de dans le fond, adverse. Puis, tu sais, dans le fond, sa performance, c'est juste la pré-saison. Tu sais, les 2 poids, 2 mesures, là, Shedeur Sanders a bien fait, faut le dire. Puis, je pense que ça vient de placer la table pour la course au poste de carrière partant chez les Browns de Cleveland.
Oui, est-ce que Joe Flacco part toujours comme option numéro 1 à Cleveland? Je regarde les carrières dans cette formation-là. Oui, on a parlé de Shedeur Sanders, il y a Joe Flacco, mais je regarde les autres carrières présents à Cleveland. C'est plus ou moins intéressant quand même, mais dans le cas de Joe Flacco, part quand même comme l'option numéro 1 pour le premier match de la saison.
Oui. Plus ou moins intéressant, je t'ai trouvé généreux. Très poli.
Non, mais Tyler Huntley, Kenny Pickett, Dylan Gabriel, mettons que tu veux pas être un fan des Browns à l'heure actuelle, dans les dernières années non plus.
Non, exact. Fait que, c'est Joe Flacco qui va commencer la saison, je suis pas mal sûr. Je pense qu'il va commencer la saison comme un gars, puis il est lucide là-dedans, Joe Flacco, comme le gars qui va prendre les coups les premières semaines pour permettre aux plus jeunes d'apprendre, de se développer. Puis éventuellement de prendre son poste en cours de saison. Je pense que c'est ça qui va se passer. Joe Flacco ne jouera pas 17 matchs à moins d'une tragédie. Mais ça montre quand même que l'équipe est lucide. L'an prochain, ils ont 2 choix de repêchage en première ronde, le leur et celui des Jaguars de Jacksonville. Je pense que les Browns le savent. Ils sont en reconstruction. Ça va être une année difficile, mais avec des meilleurs jours à venir, on le souhaite pour eux.
Comment as-tu trouvé le premier match de Travis Hunter? Je sais qu'on parle de match préparatoire, là, mais dans son cas, c'est un joueur qui, je pense, les gens surveillent énormément dû à son rang de sélection, oui, mais surtout parce qu'il peut jouer 2 positions. Comment tu l'as trouvé dans son premier match?
Bon, on va le dire. Bon, il a joué 10 jeux au total à l'attaque, 8 jeux en défensive. Il a 2 attrapés. Rapide au niveau de l'attaque, là, très rapide, bon tracé de course, décisif dans ses attrapés. Puis en défensive, agressif, comme on le voyait à Colorado.
Ouais.
Mais lui-même le dit, il dit « Je pensais que ça allait peut-être être un peu plus facile que cela actuellement. » Il dit « C'est beaucoup de travail, là, il faut que je connaisse tous les jeux défensifs, tous les jeux à l'attaque. » Puis un livre de jeu NFL, c'est pas un livre de jeu NCAA universitaire, beaucoup plus complexe. Mais je pense qu'il y a les qualités athlétiques pour réussir. Puis je pense que les Jaguars, avec tout le capital qu'ils ont investi en lui, en échangeant leur choix de repêchage l'an prochain même pour s'avancer et le repêcher au choix numéro 2, on va lui donner toutes les chances de jouer aux deux positions puis de se faire valoir.
Mais question, là, y crois-tu, toi, un joueur qui arrive dans la NFL comme ça, qui a très bien fait les deux positions dans les rangs universitaires, t'en parlais avec le Colorado, mais qui arrive comme ça dans la NFL, est-ce que tu crois vraiment que ça peut se transposer où il pourra jouer les deux positions ou tu penses qu'éventuellement, va falloir que Travis Hunter s'adapte à jouer soit receveur de passe ou soit qu'il joue en défensive? Comment tu vois ça un peu pour Travis Hunter?
Personnellement, je pense qu'on va le faire jouer aux deux positions okay. le plus souvent possible. Il y a ces qualités-là, fait que tant mieux. C'est un gars à 6 pieds, 190 livres, qui a la taille du travail d'un demi-coin, peut-être moins de receveurs. Tu sais, les receveurs, on veut qu'ils soient un peu plus gros, 6 pieds 2, 6 pieds 3. Ouais. Moi, ce que j'ai hâte de voir, à Colorado l'an dernier, il était capable de jouer pratiquement tous les jeux de tous les matchs, ce qui est extraordinaire. Mais au Colorado, tu vas jouer contre des équipes de second ordre. Là, on s'entend, il y a plusieurs matchs où tu te dis, anyway, la personne que j'affronte, c'est pas le meilleur receveur de la ligue, loin de là. Dans la NFL, chaque match, c'est l'équivalent de jouer contre la meilleure université à toutes les semaines. Fait que la demande est différente en termes physiques, en termes mentaux, puis la saison est longue. Dans la NCAA, il joue 12 matchs. Là, on parle de 17 matchs, plus les matchs pré-saison, plus les matchs de séries éliminatoires si jamais il se classe. Pour moi, Travis Hunter, ça va être sa durabilité. Comment il va être capable de se développer. S'il est capable de passer la saison au complet, fine. Si on est capable de peut-être de temps en temps dire non, là, cette série-là, tu n'as pas besoin de jouer. Va sur le banc, reprends ton souffle. On te rembarque à la prochaine unité en attaque. On revient sur le terrain. On verra. On va sûrement devoir le gérer. Mais je pense que c'est possible si c'est fait intelligemment.
Parmi les autres joueurs qui se sont démarqués depuis le début des camps, as-tu un autre nom pour nous?
Il y a un gars des Jaguars de Jacksonville aussi. Cam Little.
Cam Little. Hey, hein? Ça, là, c'est l'histoire de la fin de semaine. C'est incroyable. Jacob et moi, on en a parlé un peu lundi là, dans l'émission. Le placement de 70 verges. Ça aurait été un record, David, dans la NFL si ça avait été un match de saison régulière.
Exact. Puis le pire, c'est que semblerait-il qu'en pratique, il aurait fait même du 72, 73 verges. Puis si vous avez vu le placement, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est pas compliqué. Il y avait de la place. Là. Ça aurait pu être un placement bon de plus loin même. Ce qui est complètement fou là-dedans, c'est que tu dis, attends, là, tu demandes à Trevor Lawrence, corps arrière, qui part à sa ligne de 35, « Hey, fais-nous 10 verges, puis on est capable d'aller chercher 3 points. » C'est fou, là. C'est rendu que ce que tu demandes au corps arrière, c'est « Gagne-nous un premier essai, la job est faite. Là, on est capable d'aller chercher 3 points avec ce botteur-là. » La chose étant, par contre, de botter un ballon à cette force-là à chaque fois, est-ce que ça va avoir un impact sur sa durabilité, un peu comme Travis Hunter? Tu sais, le faire une fois, c'est correct. Le faire en pratique, c'est correct. Le faire à tous les matchs de façon régulière, c'est pas facile. Là. Tu sais, tout le monde va dire, ah, il botte le ballon quoi, 3 fois, 4 fois dans le match. Ouais, mais ce que tu demandes à ton corps, la façon dont tu dois approcher le botter, c'est dur sur toute la structure squelettique, on va le dire comme ça. Lui, avec la durabilité, j'ai hâte de voir s'il va être capable de durer toute la saison.
Si on parle des blessures et les impacts pour les équipes avec les fantasy football aussi qui vont commencer, il y a notamment Brandon Ayuk qui me vient en tête, mais ça regarde comment pour les éléments clés en vue des fantasy qui s'en viennent dans les prochaines semaines?
Jusqu'à maintenant, on a eu des blessures, surtout à des joueurs de ligne à l'attaque. Moi, je pense surtout à Rashan Slater, qui est probablement l'une des pires blessures qu'on a vues. Là. On dit même que l'an prochain, il ne sera peut-être pas prêt au début de la saison pour commencer. Christian Wirfs des Buccaneers de Tampa Bay, leur joueur de ligne à l'attaque, l'un des meilleurs de la ligue, blessé, ne sera probablement pas de retour avant la semaine 5. Ça a un impact sur le corps arrière, sur le jeu au sol. Mais quand on parle de receveur, de porteur de ballon, tout ça, pour l'instant, on touche du bois, c'est pas si mal. La blessure qui m'inquiète le plus par niveau fantasy, on va le dire de même, là, c'est celle de Matthew Stafford.
Ouais.
Problème au niveau du dos. N'a pas joué un match encore, n'a pas joué une pratique depuis un bon bout de temps aussi. Et puis Matthew Stafford, il y a comme un flou artistique autour de cette blessure-là. On n'est pas trop sûr, puis les Rams n'ont pas de l'air trop sûr eux aussi, de vouloir nous dire qu'est-ce qui se passe. Ils nous disaient, ah, lundi, il va être là en pratique. Il n'a pas été là non plus. Il n'était pas là, il n'était pas là hier non plus. Il n'est pas là aujourd'hui. Puis si tu es un fan de fantasy, puis tu vas avoir une équipe fantasy, ben, tu veux avoir Matthew Stafford qui envoie le ballon à Puka Nacua, à Davante Adams. Tu n'as pas le goût d'avoir leur remplaçant Stetson Bennett qui lance le ballon. Là. Tu veux Matthew Stafford. Fait que beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Pour moi, c'est la blessure, je dirais, la plus importante parce que les Rams, avec Matthew Stafford, est une équipe non seulement qui va faire les séries, mais qui pourrait se compétitionner pour même le Super Bowl. Fait que c'est une blessure pour moi qui est très importante.
Ouais, de ce qu'on a entendu au courant de la journée dans le cas de Matthew Stafford, les Rams sont très font très attention à sa situation. Et si c'était juste de Matthew Stafford, probablement qu'il serait là en train de prendre des répétitions et tout ça en vue du début de la saison. Mais je pense qu'on est très, très, très patient du côté des Rams. On ne veut pas prendre de chance, puis je comprends ça aussi également. Mais parmi les autres inquiétudes actuelles, est-ce qu'il y a des situations contractuelles? On a réglé celle de James Cook aujourd'hui chez les Bills de Buffalo, mais y a-t-il des inquiétudes par rapport à d'autres contrats et d'autres joueurs présents dans des camps d'entraînement?
Oh, ça, c'est certain. Il y a quatre gros noms actuellement qui n'ont pas de contrat et qui attendent sur les lignes de côté. On parle de Trey Hendrickson, celui qui a fait le plus grand nombre de sacs du corps l'an dernier dans la NFL avec les Bengals. On a Micah Parsons qui, lorsqu'il joue, est l'un des meilleurs joueurs défensifs de toute la ligue avec les Cowboys. Il y a ensuite Cam Hayward qui est le joueur de ligne défensive intérieure des Steelers de Pittsburgh. On a signé TJ Watt. Cam Hayward est là depuis très longtemps. C'est le cœur de la ligne défensive. Si TJ Watt est le meilleur joueur, le cœur reste Hayward. Et au niveau de l'attaque, ben, on a encore Terry McLaurin avec les Commanders de Washington.
Wow.
Et pour moi, la plus importante, pour moi, il n'y en a pas une de plus importante que les autres. Les quatre joueurs ont un impact majeur dans leur équipe. Mais t'enlèves Terry McLaurin de là, Washington n'est pas la même équipe. Je sais bien qu'ils sont allés chercher Deebo Samuel, mais c'est pas le même joueur. Et la connexion qu'il y avait entre Jaden Daniels et Deebo et surtout McLaurin était extraordinaire l'an dernier. On enlève ça, c'est pas la même équipe et c'est pas le même corps arrière non plus. Tu enlèves un gars avec qui il est confortable de lancer le ballon profondément, un gars en qui il a confiance, tu lui enlèves ça, un corps arrière qui est jeune, ça serait dangereux pour les Commanders. Ils doivent le signer et je pense que c'est ce qu'ils vont faire aussi.
Dernière question pour toi, David, d'une importance capitale. Je sais que tu es en vacances à l'heure actuelle. Est-ce que tu vas faire une pause à 19h ce soir pour écouter le podcast des Frères Kelce avec Taylor Swift ou on prend ça tranquille?
Oh my God, je te dis, là, ben, t'sais, de ce que je comprends, c'est qu'ils vont annoncer le prochain album de Taylor Swift.
Exactement.
Je te dirais que je l'écouterai. C'est moi et moi qui va le regarder que ma fille. Je pense que c'est ma fille de 14 ans qui va vouloir regarder le podcast de football plutôt que moi parce qu'ils veulent voir Travis Kelce puis sa blonde, qu'est-ce qui va se passer là?
Non, mais tu sais, je dis ça à la blague, mais le pire, c'est qu'on en a parlé en début d'émission, puis j'ai vu une statistique passer concernant le nombre d'abonnés du podcast de Jason et Travis. Dans les 28 derniers jours, 2000 abonnés de plus sur Instagram, et depuis l'annonce des 48 dernières heures pour l'invité de Taylor Swift, on est à 312 000 abonnés supplémentaires pour le podcast des Frères Kelce. C'est juste pour te montrer l'impact quand même que ça a sur... sur un podcast et dans le monde du football et de la pop aussi en même temps. Là.
Te rappelles-tu d'un couple sport et musique, si on veut, qui soit aussi influent? Je pense que Travis Kelce, c'est connu de tous les fans de football. C'est l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Puis Taylor Swift, c'est de loin l'artiste le plus suivi sur la planète actuellement. J'ai pas de souvenir d'avoir eu un duo comme ça aussi imposant.
Non, moi non plus. Sérieusement, il n'y a pas de nom qui me vient en tête, mais je suis certain que les auditeurs vont être nombreux à nous écrire sur la messagerie texte avec des suggestions de couple. Il y avait Marilyn Monroe aussi, je pense, à l'époque avec... est-ce que c'était avec Joe DiMaggio? J'essaie de me rappeler un peu de l'époque dans le baseball, mais il n'y a rien qui me vient en tête non plus. Mais c'est juste pour te dire l'impact que ça a quand même. Il y en a qui vont être à l'écoute de tout ça, c'est sûr, ce soir, mais je te dirais que c'est pas mon cas. Et je viens de confirmer que c'est pas ton cas non plus. Alors, un gros merci.
Non, et puis, sortez pas Shakira avec Pelé, Pelé, mais Piqué, là. Ouais, ça marche pas, là.
Non,
c'est bon, on est pas en même place.
Non, puis ça a mal fini aussi, je te le confirme, alors. Alors, un gros merci pour ton temps, David. Je te laisse profiter. Tu reviens quand?
Écoute, je reviens demain. Demain, on va faire le 12 heures de route nécessaire. Mais écoute, on va mettre ça au 91.9 quelque part dans le coin de Québec, puis on va descendre en vous écoutant.
On se reparle vendredi sans faute. Un gros merci pour ton temps, David.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
David Gilbert qui est avec nous de premier début pour jaser de quelques nouvelles dans la NFL. On s'arrête quelques instants. Au retour... Jules-Anthony Vilsain qui passe au Toronto FC, transaction pour le CF Montréal. On en parle avec Sidney Faux.